effectivement, Dieu nous fasse la grâce de recevoir et vivre par sa grâce. C'est en fait un sujet... Un sujet qui m'a, depuis déjà quelques années, beaucoup touché, le sujet de la grâce de Dieu, à tel point d'ailleurs qu'il y a 5 ans, à la naissance de Clémentine, on l'a appelée de son deuxième prénom, Grâce. Et alors voilà, c'était l'occasion, dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, de creuser, peut-être dans un peu plus de détails, ce message, sachant que, et je remercie Charlotte, elle a résumé dans son intervention mon message. Mais je vais quand même me permettre de vous présenter quelques éléments. Alors, pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comme on l'avait vu la fois précédente. Attendez, il faut que je l'allume. C'est bon. Merci, Mathias. C'est de voir que finalement, il y a une période où l'homme a vécu plutôt sous la loi. Et puis qu'ensuite, il a été ouvert sur une nouvelle ère, l'ère de la grâce, et qu'au milieu de cela, eh bien, il y a la croix de Christ. Un peu comme on avait pu le voir dans l'habitation de Dieu, que c'est la croix de Christ qui avait fait la différence. Même si, et on le verra aussi, la grâce de Dieu, elle existe depuis toujours. C'est-à-dire que ce soit sous la loi, sous la grâce, Dieu est un Dieu de toute grâce. Mais voilà, dans la relation avec l'homme, il y a eu un temps où ça a été la loi, puis le temps qui nous occupe maintenant, qui est le temps de la grâce. Alors, la loi, alors je vous propose juste de traiter quelques points un petit peu pour expliquer la loi rapidement. Alors, sur le quand est-ce que la loi a été donnée? La loi, elle a été donnée une fois que le peuple a été libéré. C'est intéressant de savoir que la loi a été donnée après la libération, après la sortie d'Égypte, et avant le temps d'errance du peuple d'Israël dans le désert. Et puis, qu'est-ce que c'est que la loi? En fait, la loi, donc, telle qu'elle a été donnée à Moïse et à tout le peuple d'Israël, est-ce que vous avez une idée, finalement, de combien il y a de commandements, combien il y a de règles, on peut dire, dans la loi que le peuple d'Israël devait respecter? Je ne sais pas si vous avez une notion du nombre. 613, c'est correct. Il y en a qui sont bien renseignés, c'est exactement ça. Donc, et parmi lesquels, donc, les 10 commandements, qui ont été reçus par Moïse au Sinaï. Et en fait, la loi, si on essaie de résumer, alors j'en serais bien incapable, mais en tout cas d'essayer de trouver trois sections ou trois types de règles, il y a des règles qui vont enseigner à comment plaire à Dieu et comment lui obéir. C'est la première grande famille de règles. Puis il y a une deuxième grande famille de règles. C'est des règles qui vont montrer comment finalement adorer Dieu et faire des sacrifices pour les péchés que le peuple, pour les manquements que le peuple fera puisqu'il n'arrivera pas à respecter cette loi. Et puis il y a une troisième famille d'autres grandes règles, c'est ce qu'on pourrait dire les règles qui vont permettre d'identifier le peuple de Dieu, donc le distinguer finalement des autres nations. Par exemple, c'est des règles liées à l'alimentation, aux vêtements, ce genre de règles qui permettent de distinguer finalement le peuple d'Israël des autres peuples. Voilà ce que c'est, donc le quoi. Et puis, ensuite, le pourquoi, à quel but pour le peuple. C'est en fait comme un contrat que Dieu passe avec son peuple. Un contrat dans lequel finalement le peuple s'engage à respecter un certain nombre de commandements, tout comme on peut le faire dans un contrat. Et puis, si justement le peuple respecte ces différentes règles, eh bien Dieu le bénira, ou si le peuple ne respecte pas ces règles, eh bien potentiellement ce sera associé à ce qu'on appelle des malédictions. Mais simplement, voilà, ce qui est important quand même de noter déjà à ce stade-là, c'est que la loi en aucun cas c'est un moyen de salut. C'est deux choses différentes. Là on parle vraiment de la relation de Dieu, de l'homme avec Dieu dans ce temps-là, où finalement, à travers la loi, en respectant ses commandements, l'homme passe un contrat avec Dieu qui le bénira, ou l'homme ne sera pas forcément béni. Et c'est un petit peu ce qui est résumé dans ces versets de Deutéronome. Donc si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est le premier volet. Donc voilà, si on... les bénédictions. Et à contrario, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc voilà, c'est relativement clair hein, de à quoi va servir la loi et pourquoi finalement, quoi, dans quel, avec quelle motivation le peuple de Dieu va finalement respecter, en tout cas tenter de respecter les différentes règles que Dieu lui a données. Ça, c'est l'objectif. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le pourquoi du fond. Pourquoi finalement la loi ? Qu'est-ce qu'elle va nous révéler ? En fait, la loi, elle va nous révéler le caractère de Dieu. La loi, c'est ce qui nous est dit, « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » La loi est là pour montrer que Dieu est un Dieu saint et que dans sa présence, eh bien, Dieu ne supporte pas le péché ou ce qui le sépare finalement de ce qu'il est par essence, de la nature de Dieu qui est saint. Et la loi va mettre tout ça en relief, en mettant des règles et en montrant, ben, voilà, dès qu'on va être incapable de respecter ces règles, on va s'éloigner, on va se séparer finalement de Dieu. Première chose. Deuxième chose, la loi va révéler la condition humaine devant Dieu. Un verset dans Romains 7, que j'ai trouvé assez intéressant, parce qu'il est très explicatif finalement. « Je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Ça permet à l'homme finalement de réaliser et de mesurer quelle est la sainteté de Dieu et puis bah, de bien admettre qu'à un moment, de par sa nature, il n'en est pas tout à fait proche. Et donc ça permet d'éduquer l'homme, d'une certaine façon, à prendre conscience de cette sainteté de Dieu. Donc, voilà, qui révèle la condition humaine. Et le dernier point, quoi, que j'ai lu en tout cas, c'est donc révèle le caractère de Dieu, la condition humaine devant Dieu, et la loi révèle le salut. Il y a déjà une notion de salut dans la loi, puisque avec la loi ont été aussi mis en place tout un système sacrificiel, si on peut parler ainsi, qui était là finalement bien pour venir, en quelque sorte, effacer ou demander le pardon pour tous les manquements que le peuple avait pu avoir à l'égard de la loi. Mais ce qu'on voit, c'est que bah, ce sont des sacrifices qui étaient à reproduire, qui n'étaient pas efficaces dans le temps et qu'il fallait répéter. Donc voilà, en substance, hein, le quoi, le pourquoi, donc pourquoi pour le peuple de Dieu, et puis mais pourquoi dans le fond de l'histoire, pourquoi la loi ? Et puis le constat qu'on peut faire avec ça, eh bien, c'est que finalement, la loi est très claire, hein, et c'est comme un contrat, hein, je dirais, il peut y avoir beaucoup de clauses, mais il suffit qu'il y ait une clause à laquelle on manque, tout devient caduque. Et c'est bien ce qui était exprimé là dans ce verset de Jacques 2, de fait, la personne qui obéit à toute la loi, donc les 613 règles, hein, si je rappelle, mais qui pêche contre un seul, donc qui en respecte 612, eh bien, il est coupable, il pêche vis-à-vis, il est en faute, pardon, vis-à-vis de l'ensemble. Donc le constat est assez clair, finalement, bah, même si on est bon à 612 sur 613, ça ne suffit pas. Mais bon, en tout cas, pour ma part, je ne suis pas bon sur les 612, je pense. Donc voilà le constat. Le constat, c'est que finalement, ben, avec cette loi, on prend conscience de notre nature, de la nature de Dieu, mais qu'en faire finalement ? Parce que c'est voué à l'échec, d'une certaine façon. Donc, que faire ? Que faire ? Eh bien, en quelque sorte, revenir à ce qu'on disait. Ce qu'on disait, c'est bien que la nature de Dieu, c'est un Dieu de toute grâce. Un Dieu qui est saint, mais un Dieu qui est amour également. Et c'est ce qu'on voit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et c'est là où, alors peut-être juste pour faire quelques mentions de cet élément, c'est déjà donc de réinsister sur le fait que le salut ne s'obtient pas par le respect de la loi. Le salut, c'est Dieu qui le donne, même sous la loi. C'est Dieu qui trouvait et qui donnait le salut dès qu'il voyait de la foi C'est Dieu qui dispense le salut, c'est Dieu qui a la provision pour tout cela. Et ce n'est pas l'obéissance à un commandement qui est un moyen de salut personnel. Et puis ce qu'on peut voir, donc, comme je le disais, par rapport à ces éléments sur la grâce, c'est que je ne sais pas si vous savez quand est-ce qu'il est fait mention de la grâce pour la première fois dans la Bible. Quelqu'un a une idée ? C'est dans Genèse 6. Je vais vous le lire. L'Éternel, et c'est un passage qui m'avait frappé justement dans tout ce qu'est la grâce. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup, donc c'est avant toute la période où Dieu a donné la loi. Hein. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Wow. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est dans Genèse 6. C'est la première mention de la grâce. Et c'est magnifique de voir finalement, et c'est impressionnant, moi ça m'a toujours, et ça m'impressionne encore, de voir ce constat de Dieu qui regrette d'avoir fait l'homme hein, et qui est prêt à le détruire, mais à un moment donné, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et c'est pas à cause de ce que Noé a fait, hein, bien entendu. C'est Dieu qui a trouvé Noé et Dieu qui a voulu sauver sa création. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament par rapport à Noé. C'est par elle, donc par la foi, que Noé a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà. Noé a pu être justifié par la foi qu'il a eue et par la grâce que Dieu lui a faite. Et puis même sous l'ère de la loi, comme on le disait, il y a eu d'autres exemples où Dieu aussi, quelque part, parlait d'exterminer le peuple. Mais Moïse s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de le détruire. Il y a toujours eu, finalement, ce qui est vraiment important, je pense, de bien voir, c'est que Dieu est un Dieu de toute grâce, et que même dans cette période de la loi, la grâce de Dieu existait, la grâce de Dieu était là, et l'homme pouvait trouver son salut. Mais voilà, la loi était là pour montrer que dans sa relation avec Dieu, l'homme était séparé, l'homme n'avait pas accès à Dieu à cause de sa nature pécheresse. Et puis un dernier, avant de passer justement à la suite sur la loi, un dernier point quand même que je trouve aussi interpellant à noter, c'est que malgré tout, déjà même à l'époque, quoi, sous ce temps quand Dieu a donné la loi à son peuple, c'est que le cœur de la loi, c'était quand même l'amour aussi. Hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et c'était quand même déjà le cœur de la loi. Mais voilà, le constat, on l'a vu ensemble. Le problème persiste. Dieu est saint, l'homme est pécheur, l'homme est séparé, n'a pas accès à Dieu. Et les sacrifices mis en place sont inefficaces. Et alors c'est là que finalement se révèle tout le plan de Dieu. Et c'est là que j'aimerais qu'on passe maintenant quelques moments. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une image. Une image, je vois par exemple, c'était avec les enfants, on peut avoir ces images, soit à l'école, soit à la maison, c'est que quand ils font quelque chose de bien ou de pas bien, on leur met une coche, une bonne ou une mauvaise coche. Encore ce matin, j'entendais Camille qui disait, ben maintenant je vais te mettre des mauvaises coches, et dès que tu en attends, tu auras une grosse punition. J'aurais fait pareil, hein. Mais voilà. Tout ça pour dire, puis à l'école c'est pareil. Et puis au travail aussi, je pense, dans des évaluations. Mais voilà, imaginons-nous que nous avons tous notre feuille, quelque part, une feuille dans un livre, avec notre prénom. Et puis dès qu'il y a quelque chose où finalement, bah voilà, on fait quelque chose qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu, eh bien on met une marque. Alors ça va aller vite, hein. Une fois je suis jaloux, une fois je convoite, une fois je m'énerve, une fois je médis. Une fois, Il y en a tellement, peut-être je dis pas tout, je ne pardonne pas, je suis orgueilleux, je cherche mon avancement, etc. Alors peut-être que vous, ça ne va pas aussi vite que moi, mais voilà, je pense que malgré tout, on met tous des marques comme ça. On met tous des marques comme ça sur notre feuille. Et Dieu le voit. Mais Dieu désire nous racheter, désire nous sauver. Dieu veut voir autre chose. Et Dieu nous veut dans son royaume. Mais bon, avec une page comme ça, quoi, avec un bilan comme ça, bah, c'est pas compatible. Et même si aujourd'hui, des fois, il y a des tendances pour dire « Dieu est tolérant, Dieu, oui, oh, c'est pas grave, Dieu, pff, il regarde un petit peu, mais pas trop ça, etc. » Je crois pas. Dieu, la Bible nous dit qu'il est saint et qu'il y a des choses qui sont claires, et Dieu est saint, et c'est comme ça. Et donc, quelque part, bon, on a toutes ces marques-là. Et puis d'ailleurs, il nous est parlé, c'est intéressant aussi de voir, dans l'Apocalypse, il y a des livres qui seront ouverts. Et qu'est-ce que verra Dieu dans notre livre, à la fin ? Qu'est-ce que verra Dieu ? Alors, c'est là qu'il faut peut-être revenir à la croix. Venons-en au fait. On est un peu, vous vous souvenez, au moment de la croix, il y a Barabbas. Barabbas, c'est un brigand, un meurtrier même, qui a provoqué des émeutes dans la ville de Jérusalem, ou ailleurs, et qui est condamné, qui est en prison, et qui est condamné, qui va devoir payer le prix de ce qu'il a commis, finalement. Alors peut-être que nous, on n'est pas des meurtriers, quoi, j'espère qu'on n'est pas des meurtriers, mais quoi qu'il en soit, on n'est quand même pas bien meilleur que Barabbas, à certains égards, en tout cas vis-à-vis de notre pseudo-sainteté vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Il y a la même différence, hein, on a dit, il suffit qu'on défaille une fois et c'est fini, quoi. Je veux dire, on est séparés. Et de par nature, on est comme ça. Et puis alors, on imagine Barabbas et on peut se mettre à sa place dans notre cellule, à peut-être méditer sur ce qu'on a fait, à ses actes, à tout cela, et puis à attendre, emprisonné dans notre cellule. Et puis, tout d'un coup, on entend des pas qui s'approchent, de plus en plus près. Et là, on sait que c'est l'heure qui arrive. On sait que ça y est, cela va s'arrêter. On baisse la tête. La porte s'ouvre. Et là, une voix nous dit « Va, tu es libre ». Tu es libre. Jésus a pris ta place. Jésus est puni. À ta place. Pardon. Et la grâce se révèle. On peut lire ces versets. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. La grâce se révèle. Voilà la grâce. Dieu a pris l'initiative. Dieu a prévu ce plan de substitution. Et ce qui est magnifique à voir, c'est que Dieu l'a prévu bien avant que le péché soit là. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. C'est ça qui est magnifique. Avant le péché, avant le pécheur, il y avait le sauveur. Avant la maladie du péché, il y avait le remède. Et avant Barabbas, avant nous, il y avait le substitut, il y avait Jésus. Et Jésus a publiquement pris notre péché. Il ne l'a pas mis sous le tapis comme ça. Il n'a pas dit, bon, bah, écoutez, voilà, maintenant j'arrive, c'est un nouveau temps. On oublie tout ça, on recommence à zéro, non. Jésus a pris notre péché. Il ne l'a pas mis sous le tapis. Et il a reçu la colère de Dieu, le prix que méritaient nos péchés, pour qu'on soit pour toujours libéré de cela. Et du coup, si on revient à notre page, et c'est vraiment notre page, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ça. Il a dit, ça, c'est moi. Et pour nous tous, il a pris toutes nos pages, tous nos péchés, il a dit, ça, c'est moi, devant Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Jésus, lui, il a une page, on sait, elle est parfaite. Il n'a jamais péché, c'est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a pris sa page. Voilà. Grâce sur grâce, nous avons reçu. Nous avons désormais la page de Jésus. Désolé pour l'émotion. Et voilà. Et c'est pour ça, finalement, qu'aujourd'hui, eh bien, quand nous venons devant Dieu, Dieu nous voit comme cela. Dieu nous voit. Il a vu son Fils comme ça, hein, n'est-ce pas ? Il a vu son Fils comme ça, mais nous, il nous voit comme ça. Et voilà, et ça c'est quand même magnifique de le réaliser, et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut que revenir au pied de la croix pour venir devant Jésus, le contempler, payant le prix pour nous, et lui dire merci, merci. Voilà la grâce, voilà ce que c'est que la grâce, quoi, une illustration de ce qu'est la grâce. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la grâce, comme on l'a juste évoqué juste avant, Jésus n'a pas mis sous le tapis les choses, c'est aller bien plus loin. Ce que nous dit Jésus, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, pour l'enlever, ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il nous est dit aussi que, et il disait, pas une seule lettre, pas un iota hein, de la loi ne disparaîtra avant que j'accomplisse moi parfaitement l'œuvre qui m'a été donnée de faire. Et ce qu'il est dit aussi, c'est que Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Donc Christ, voilà, Christ a accompli parfaitement la loi. Il n'y avait que lui qui était capable de faire cela, et il l'a fait. Et c'est un petit peu, voilà, quand on lit ça, hein, Christ est la fin, c'est dans Romains 10, Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. C'est quand Jésus s'est écrié, c'est accompli, c'est ça, c'est fini, nous entrons dans une nouvelle ère, nous sommes libérés. Et c'est ce qu'on dit, et pour terminer peut-être là-dessus, sur la croix, ce qu'on peut voir, c'est que l'intervention de la loi, c'est ce qui nous est dit dans Romains de nouveau, a entraîné la multiplication des fautes, hein, parce qu'avec 613 commandements, vous imaginez bien qu'on a dû en faire. Mais là où le péché, donc là où nos manquements se sont multipliés, la grâce a surabondé. Et il nous est parlé aussi en Éphésiens de l'infinie richesse de sa grâce. Quel Dieu merveilleux nous avons et quelle œuvre merveilleuse que celle de Jésus pour nous. Et donc à présent, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous tous, c'est l'ère de la grâce. Alors, ce que je vous propose, c'est à présent de voir un petit peu les effets de cette grâce et les effets de la croix de Christ. Alors, que devient le péché ? Et ça, je trouvais aussi, on prend deux minutes là-dessus, parce que je trouvais que c'était des notions qui étaient intéressantes, mais que devient le péché ? Je vais prendre quatre images. Première, c'est distance infinie. Il y a un verset qui nous dit, et que certains connaissent sûrement, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » C'est le psaume 103. Et ça, en fait, en s'y arrêtant deux secondes, en fait, si vous partez d'ici, vous allez au nord, vous allez arriver au pôle nord, puis quand vous serez au pôle nord, vous allez redescendre vers le sud, et vous saurez que voilà, soit vous allez au nord, soit vous allez au sud, quelque part, hein, c'est assez clair. L'Est et l'Ouest, on n'y est jamais. L'Est et l'Ouest, ils sont toujours éloignés, ils ne se rapprochent jamais l'un de l'autre. Si je vais à l'Est, par exemple, et que tout d'un coup je me dis, ben attendez, où est l'Ouest ? Ben, il est toujours derrière moi, il est toujours rien, et je ne vais jamais atteindre l'Est, et je serai toujours à l'Ouest. Quoi. Ils ne se rejoignent jamais. Où que vous soyez sur le globe, vraiment, cette notion de Est et Ouest ne se rejoignent jamais. Et c'est une image simple, mais magnifique, et très très illustrative, pour dire combien nos péchés sont loin C'est fini, quoi. Premier élément. Deuxième élément, ils sont derrière nous. Tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ils sont au fond de la mer. Et puis, un dernier point là où je veux m'attarder deux secondes aussi. Ils sont effacés sans souvenir. Il nous est dit, pourtant c'est moi. Moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Des fois, quand on va voir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a reçu la grâce présidentielle, par exemple, comme ça peut se pratiquer dans certains pays, ben on pourra voir dans son carnet qu'à un moment donné, il était condamné à mort, puis qu'il y a écrit « gracié ». Mais là, Dieu, ce n'est pas ça. Nous, si on prend notre feuille, il n'y aura pas écrit « gracié ». Il n'y aura juste plus la feuille. Il n'y aura juste plus la feuille. C'est oublié. Je ne m'en souviendrai plus. C'est quand même extrêmement fort, c'est quoi. Si on médite deux secondes là-dessus, c'est extrêmement fort. Donc, pas de culpabilité. Dieu voit notre page blanche, celle de Jésus. Et vraiment, je crois que c'est assez fondamental, même si on va le voir après, ben voilà, dans notre quotidien, ce qu'il en est. Voilà, par rapport au péché. Quelques caractéristiques de la grâce à présent. Donc, comme on l'a dit, elle est éternelle de tout temps, hein. Sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, nous est-il dit. Elle est universelle, il nous est dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. D'accord ? Donc de toute éternité, pour tous les hommes, sans pareil. Sans pareil, alors là c'est peut-être, je ne sais pas si on peut dire subjectif, mais il n'y a pas de distance plus grande entre le royaume de Dieu, sa sainteté, et la place qu'a pris Jésus sur la croix. Il n'y a pas de distance plus grande. Et c'est dans ce sens-là que la grâce est finalement sans pareil. Il ne peut pas y avoir une œuvre aussi grande que celle-ci. Elle est parfaite et elle est suffisante. C'est Paul qui a reçu cette parole, « Ma grâce te suffit ». Et donc on peut s'approcher, comme il nous est dit aussi, du trône de la grâce. Pour comment la vivre finalement, comment la vivre, parce que c'est ça qui aussi va nous importer une fois qu'on fait ces constats-là. Alors c'est déjà voilà, de bien prendre conscience que ce n'est plus la loi. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vraiment qu'on se souvienne de cela, hein, de cette page blanche qu'on a et que Dieu nous voit comme ça. Dieu voit cette page blanche, la page de son Fils. Alors, après, c'est sûr que on a vite tendance, malgré tout, à re-rentrer dans une certaine forme de légalisme, en se disant, voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce que je dois être, ne pas être, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire et pour lequel je me sens encore coupable. Surtout, peut-être, en tout cas, je parle pour ma part, mais quand je reprenais aussi le bête exemple, hein, avec nos enfants, on leur met aussi des croix, peut-être qu'on est un petit peu hein, aussi, on reçoit tout cela et peut-être qu'on en a besoin aussi pour grandir d'une certaine façon. Mais on pourrait se dire, si je veux recevoir les bénédictions, alors il faut que j'aille à l'église, il faut que je prie, il faut... Un peu comme finalement c'était sous la loi. Mais je ne pense pas en fait, je ne pense pas. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas dénigrer tout cela, mais il ne faut pas oublier de ce pourquoi on le fait. Et le plus important... Dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons, c'est d'essayer hein, d'être occupé de ce que Jésus est pour nous, de contempler Jésus plutôt que de regarder ce que nous sommes. Peut-être que des fois par rapport à des choses qu'on a fait fausses, par rapport à des regrets, à des remords, à différents éléments, eh bien c'est de revenir et plutôt de se dire qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et qu'est-ce que Dieu est pour moi. Pour être finalement, et c'est une belle expression à la fin qu'on utilise de temps en temps, mais être dans cet état de grâce. L'état de grâce, c'est ça. Hein, quand on dit qu'une personne, un sportif, un athlète, un musicien est dans un état de grâce, eh bien, nous, c'est quelque part un encouragement aussi à être dans cet état de grâce, en contemplant l'œuvre de Jésus et en recevant sa grâce pour être dans cet état de grâce, d'une certaine façon. Hein. Et donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que Bien sûr que voilà, il est bon de prier, il est bon de louer, de chanter, etc. Et je pense qu'on en a besoin, qu'on ne se méprenne pas. Hein. Mais ce qui est important, c'est de la façon et le pourquoi dans lequel on le vit. On le vit dans la liberté. On ne le vit pas pour dire, bah, si je fais ça, je vais avoir ci. Non, 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 non. Non. Et d'ailleurs, il y a un exemple. Je vais vous prendre un exemple qui est illustratif de ça. Si vous prenez, par exemple, des étudiants, je vois qu'il y a des jeunes, ou alors des employés, ou des gens qui ont leur entreprise, ou alors peut-être que les personnes plus âgées, eux, ils ont déjà tout compris, donc ils n'ont pas besoin d'exemple. Mais si, par exemple, voilà, donc prenons le cas d'un étudiant, ou d'un groupe d'étudiants, qui, pendant toute l'année, bien révise ses examens, va au cours, fait ce qu'il doit faire, hein, d'une certaine façon, et puis, pour arriver préparé aux examens de fin d'année. Donc, il y a ce groupe d'étudiants-là. Puis, il y a un autre groupe qui, lui, finalement, est un petit peu moins concerné, qui vient de temps en temps au cours, qui révise pas trop, qui sort plutôt le week-end plutôt que d'un petit peu de temps en temps réviser ses cours, etc. Bon, un peu ces deux groupes de personnes. Puis bon, le mois de juin arrive, quoi qu'il en soit, et les examens. Alors tous vont d'une façon peut-être plus ou moins sereine aux examens, du coup, entre ces deux groupes. Mais bon, ils y vont quand même tous, font leurs examens. Fin juin, début juillet, le temps des résultats. Premier groupe qui avait bien révisé ses examens va devant le panneau d'affichage. C'est passé bien, mention, très bien. Tout ça s'est passé, réussi, formidable. Le deuxième groupe va devant le tableau de résultats. C'est passé, c'est réussi, c'est bon. Le premier groupe se dit, mais attendez, ils n'ont rien fait toute l'année, ils n'ont pas travaillé. Et comment ça se fait ? Nous qui avons travaillé depuis le début de l'année, qui avons fait tout ce qu'il fallait faire, eux, ils réussissent aussi. Eh bien, c'est l'image de la parabole des ouvriers de la dernière heure qui nous est donnée dans Matthieu 20. C'est cette image-là où finalement, Dieu est un Dieu de grâce. Et contentons-nous peut-être, et c'est pas simple, et je le dis pour moi le premier, de voir ce que Dieu fait pour nous, et puis de peut-être voir aussi, d'admirer ce que Dieu peut faire pour les autres, et en se disant que finalement, ben, ce n'est pas par la base de nos mérites. Alors c'est sûr que, en tout cas dans l'éducation que j'ai reçue, je serais plus serein d'arriver aux examens, ou plus serein de peut-être aussi, de temps en temps, bah, pouvoir prier avant qu'une grosse échéance, etc. Mais tout est reçu par la grâce, et ne jugeons surtout pas, finalement, la façon dont Dieu peut révéler sa grâce aux autres. Et puis, et en allant plus loin, même, des fois, on peut se dire, et moi aussi, tiens, mais moi j'ai fait ça, je suis allé à l'église quand même régulièrement, j'ai prié, je fais ça, puis il y a ça qui m'arrive. Puis eux, ils ne font jamais ça, etc. Puis tout a l'air rose pour eux. Bah, non. Là, on fait fausse route, c'est pas ça. La grâce de Dieu, c'est pas ça. C'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, c'est la motivation avec laquelle on vit les choses et on fait les choses. Qu'on les fasse vraiment dans cet état où nous sommes bien conscients qu'on ne mérite rien, mais que Dieu nous a tout donné, et que du coup, on peut tout faire, et on a envie de tout faire avec lui, quoi, d'une certaine façon. Après, quand on se place devant lui, devant l'œuvre de sa croix, eh bien, tout devient plus facile. Et puis, alors, on peut vivre aussi, quelque part, ce qu'on pourrait appeler le commandement de l'Évangile, qui est l'amour, d'aimer notre prochain. Mais pourquoi on a envie de le vivre ? Parce qu'on contemple la croix. Pas parce que je me dis, ah ben tiens, si je le fais, je vais avoir ci ou ça. Non. Et c'est vraiment, je pense, voilà, important que ce soit ces leviers-là qui soient actionnés en nous. Et encore une fois, je ne suis vraiment pas là pour vous dire, et je m'en excuse si ce n'est pas suffisamment clair, mais de dénigrer des activités spirituelles, disciplines chrétiennes. Au contraire, je pense que on a aussi besoin de barrières, on a aussi besoin de routines, d'habitudes. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'elles ne nous mènent pas dans ce travers où on pourrait se dire, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, et regarde ce qui m'arrive, alors que l'autre, ils ne font pas. Non, non. C'est j'ai fait ci, j'ai fait ça parce que j'aime mon Dieu. Et c'est tout. Et donc voilà, oui, de regarder finalement à cette immensité de la grâce de Dieu qui nous libère. Voilà, donc hein, on a évoqué le légalisme, la parole des ouvriers de la dernière heure et cet état de grâce en contemplant vraiment l'immensité. C'est une pièce bien plus grande, quoi. C'est une maison où on rentre, où c'est immense et où Dieu nous invite pour vraiment se saisir justement de cette grâce et qu'on puisse être fortifié. Alors pour conclure, alors ce que je dirais c'est que voilà, lorsqu'on a peut-être l'impression d'être mauvais, d'aller d'échec en échec, de faire ce qu'on ne veut pas faire ou de faire ce qu'on veut pas faire ou de ne pas faire ce qu'on voudrait faire, de culpabiliser, de regretter des choses, d'être fatigué, de se mettre la pression, d'être stressé, ben comme le disait Charlotte, arrêtons-nous. Alors ça peut être de différentes façons, hein, ça peut être en chantant, effectivement, en louant, en se baladant, en jardinant, en se couchant, vous avez bien d'autres idées pour nourrir tout cela. Et puis, pendant ce temps, remontons ce chemin qui mène à la croix de Golgotha et contemplons Jésus. Jésus mort pour nous et écoutons ce qu'il nous dit. Écoutons ce qu'il nous dit à l'oreille, plein d'amour. Ma grâce te suffit. Alors, je vous propose On va passer un chant, que j'ai mis les paroles, donc si certains le connaissent, vous pouvez chanter sur les paroles, elles seront là, et puis c'est aussi l'occasion de l'apprendre, c'est un petit peu comme on a fait la dernière fois, voilà.